CPORadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Clèche, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPORadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPORadio-du-bas. TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Ludovic Beribos, associé d'EPSA Operations and Procurement. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM. Bonjour Pascal.
Bonjour Patrice.
Aujourd'hui, nous recevons Olivier Siboni, professeur à HEC et auteur de « Vous allez redécouvrir le management, 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions » et c'est paru chez Flammarion. Bonjour Olivier.
Bonjour Patrice.
Donc, vous avez étudié à HEC et vous êtes même retourné sur les bancs de la fac en 2017 pour obtenir un doctorat à Dauphine.
Absolument, un retour aux sources et aussi une deuxième partie de carrière.
Est-ce que c'est pas ce qu'on devrait tous faire, retourner de temps en temps, sans forcément chercher à obtenir un doctorat, mais pour nous former, pour prendre le temps de réapprendre, qu'en pensez-vous ?
On devrait tous retourner à l'école de temps en temps, bien sûr. D'abord parce que le monde change et que ce qu'on a quand on est comme moi. Pas exactement sorti de l'école l'année dernière, Eh ben le monde a beaucoup changé. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a travaillé quand on était étudiant, en admettant même qu'on ait fait des études de gestion, de management. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a travaillé quand on était étudiant qui ne ressemblent absolument plus du tout à ce qu'ils étaient. Et puis on a besoin, même si on est relativement jeune, on a besoin d'élargir le champ de ses compétences. Donc oui, bien sûr, tout le monde devrait retourner se former, si possible à HEC Paris d'ailleurs.
En revanche, vous n'aviez pas un début de carrière de prof, vous étiez chez McKinsey avec des expériences...
J'étais consultant, absolument.
Consultant, hein, avec des expériences professionnelles extraordinaires.
C'est une très belle expérience d'être consultant, et en particulier chez McKinsey, bien sûr, et on apprend énormément de choses, et on est au contact d'une extraordinaire variété de problèmes de management, ce qui a certainement contribué à nourrir mon intérêt pour la réflexion sur la science managériale, on va dire.
Et un quart de siècle après vos débuts, donc le fameux doctorat, et là vous basculez dans l'enseignement à HEC, vous écrivez des livres, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Olivier ?
Écoutez, il s'est passé ce qui se passe pour, j'imagine, beaucoup des gens qui nous écoutent, qui est que quand on arrive au bout d'un certain nombre d'années de carrière, on a envie de changer. Et il y a des gens qui changent pour aller faire du fromage dans le Larzac, et c'est très bien pour eux, mais moi, c'était pas mon truc. Quand j'ai commencé à me demander ce qui pouvait m'intéresser pour aller vers une deuxième partie de carrière, j'ai eu une réflexion qui, en fait, est aussi à l'origine du livre dont on parle aujourd'hui. Je me suis rendu compte, en fait, que dans la manière dont les managers traitent des problèmes de management, y compris des managers dans des cabinets de conseil, y compris moi, en fait, quand j'étais consultant, on passe à côté d'une extraordinaire richesse de connaissances qui est développée par les enseignants-chercheurs en management, dont je ne soupçonnais pas l'existence, des tas de recherches, des tas de travaux qui, en fait, sont d'une grande utilité pratique pour des gens qui ont à prendre des décisions et qui ont à faire du management, et qu'on ne connaissait pas. Et je me suis dit qu'une chose qui allait pouvoir m'intéresser pendant la deuxième partie de ma carrière, que j'espère longue, c'est d'essayer de jeter des ponts sur ce fossé entre les théoriciens d'un côté qui sont dans leurs écoles de management et qui font des travaux que les managers ne connaissent pas, alors que pourtant ils gagneraient à être connus, et les managers qui ne les connaissent pas et qui pourtant devraient les découvrir.
Qu'est-ce que vous enseignez aujourd'hui ? Je comprends. Qu'est-ce que vous enseignez à HEC du coup aujourd'hui ?
J'enseigne principalement deux choses. La stratégie, je suis rattaché au département stratégie, donc j'enseigne la stratégie aux étudiants de la grande école, au MBA et à l'exécutif MBA. Et j'enseigne également la prise de décision et la résolution de problèmes, c'est-à-dire des approches transversales qui peuvent s'appliquer non seulement à la stratégie, mais aux autres domaines. Ça peut être les achats, ça peut être le marketing, ça peut être la finance. Parce que, comme disait, je crois, Peter Drucker, un des grands penseurs du management, Il n'y a pas des problèmes de marketing, des problèmes de finance, des problèmes d'achat. Il y a des problèmes de business. Les problèmes n'arrivent pas avec une jolie étiquette qui dit « Bonjour, je suis un problème de marketing et vous devez me résoudre en utilisant les outils que vous avez appris dans le cours de marketing à l'exclusion de tous les autres. » Donc on a besoin d'avoir des démarches intégratrices, on a besoin d'avoir des approches pour résoudre les problèmes qui permettent de les considérer dans leur totalité. Et c'est ça que j'essaye d'enseigner à nos étudiants et à nos participants d'Executive Education.
Vous avez quand même conservé par ailleurs des missions de conseil auprès de direction générale d'entreprise, auprès de conseils d'administration,
très peu, et uniquement quand elles sont en lien avec les sujets de recherche sur lesquels je travaille, parce que c'est un métier d'être prof. C'est une des choses que je raconte dans Vous allez redécouvrir le management, c'est que la question que vous me posez là, sous une forme ou sous une autre, tout le monde me la pose. C'est-à-dire, bon, d'accord, tu es prof, mais à part ça, tu fais quoi? Tu dois quand même bien avoir continué à faire un peu de conseil, ou alors c'est que tu t'es mis à jouer beaucoup au golf. Mais enfin, ça n'a l'air de venir à l'idée de personne qu'être prof de management soit un vrai métier. Et pourtant, Patrice, je peux vous le dire, être prof de management, c'est absolument un vrai métier, comme tous les métiers. On n'est pas obligé de faire autre chose à côté pour justifier son existence.
Et en plus, en revanche, vous écrivez des livres. En l'occurrence, vous allez redécouvrir le management.
Ça fait partie du métier de prof,
surtout quand on est chercheur. C'est paru chez Flammarion. Est-ce que les managers d'aujourd'hui ont besoin de redécouvrir les racines ou les innovations du management? Est-ce qu'ils ne savent pas déjà tout?
Alors, s'il y a des managers qui savent déjà tout, tant mieux pour eux. Et d'ailleurs, j'imagine qu'ils nous écoutent pas, puisqu'ils savent déjà tout. Mmh. Donc, si on s'adresse à ceux qui nous écoutent, qui ont conscience qu'ils ne savent pas tout, il y a un peu deux cas. Il y a ceux qui n'ont pas fait d'études de management et qui ont appris sur le tas et qui souvent, d'ailleurs, se débrouillent aussi bien, voire mieux, que ceux qui ont fait des études de management. Et il y a ceux qui ont fait des études de management. Et dans le cas des premiers, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut, beaucoup d'outils qu'on peut leur donner qui vont leur faire gagner beaucoup de temps. Dans le cas des seconds, ils ont quand même souvent besoin de rafraîchir leurs connaissances. Et dans les deux cas, il y a en fait une démarche, une manière d'aborder les problèmes qu'on gagne à connaître, qui est en fait d'avoir une démarche scientifique par rapport au management. Au fond, dans la question que vous posiez tout à l'heure, quand vous disiez mais quand même vous faites bien du conseil, vous faites bien autre chose que faire du management. Il y a une hypothèse, il y a une vision du monde sous-jacente, si vous voulez, qui est que le management c'est d'abord une pratique. Le management c'est d'abord un art, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. C'est un peu comme la natation. C'est-à-dire, on va pas apprendre la natation autrement qu'en étant dans l'eau et en commençant à nager. On pourrait vous faire un cours théorique, mais franchement, ça servira à rien. Et beaucoup de managers ont du management cette idée-là. Ils se disent que c'est quelque chose qui ne demande, en fait, aucune connaissance théorique et où, en fait, si on essaye de le faire de la théorie, c'est une perte de temps et c'est du coupage de cheveux en quatre. Ce que j'encourage, en fait, nos auditeurs aujourd'hui à considérer, c'est la possibilité que le management, ça soit plutôt, en fait, comme la médecine. Quand vous allez chez votre médecin, si votre médecin vous dit, bah, écoutez, je crois que je vois à peu près ce que vous avez, bon, on va essayer un truc, je sais pas très bien si ça marche, mais ça a marché chez quelqu'un d'autre que je connais, vous allez vous dire, oulala, c'est pas du tout ce que j'attends de mon médecin. Mon médecin, j'attends de moi qu'il me prescrive des traitements qui ont été testés, qui ont été validés, dont les résultats sont scientifiquement établis. Mm-hmm. Ça veut pas dire que ça va marcher à tous les coups. Tous les patients sont différents. Tout le monde ne va pas réagir de la même manière à un traitement. Et il faut tenir compte des circonstances quand on utilise un traitement. Mais enfin, on s'attend à ce que les recommandations que va vous faire votre médecin soient étayées par des faits scientifiques. Et ben, en management, c'est pareil. Il y a des théories, il y a des faits scientifiques. Ça veut pas dire que tout est pareil et qu'on doit appliquer les mêmes méthodes partout. C'est pas une science exacte, c'est une science sociale, le management. Donc c'est une science où il y a des régularités statistiques, il n'y a pas des lois absolues. Mais on a néanmoins des choses scientifiques qu'on peut établir. On peut dire sur des tas de sujets que toutes choses égales par ailleurs, il y a une bonne manière de faire et il y a des mauvaises manières de faire.
À ce propos, Ludovic, ouais, Béribos a des questions à vous poser.
Ah mais Ludovic, formidable.
D'abord, je voulais commencer effectivement par votre parcours. J'ai pris le temps de regarder vos vidéos hier soir. J'ai été très très agréablement surpris et c'est un honneur de pouvoir vous poser quelques questions.
Bah c'est très gentil, merci beaucoup, honoré pour moi.
On va commencer par parler de mon grand-père, ça va vous étonner, mais mon grand-père me disait souvent que j'avais le droit de faire des erreurs, mais qu'il valait mieux pour sa santé que je ne les répète pas trop souvent.
Absolument.
Exactement, je voulais savoir quels sont les quelques conseils que vous pourriez nous donner pour prendre des décisions éclairées.
D'abord, pour prendre des décisions éclairées, il faut se rappeler ce que vous disait votre grand-père. C'est très important ce que disait votre grand-père. C'est que je crois que ce que voulait dire votre grand-père, je vais me permettre de sous-titrer votre grand-père. Hein, vous me dites si je me trompe. Ce que je crois voulait dire votre grand-père, c'est que on va pas gagner à tous les coups. On va faire de son mieux. On va pas gagner à tous les coups et on va essayer de tirer les leçons de nos erreurs et de pas faire deux fois la même bêtise. Mais en fait, dans la sagesse de votre grand-père, il y a une leçon très très importante, c'est que même si on prend la meilleure décision possible, on gagnera pas à tous les coups. Parce qu'on vit dans un monde incertain. Vous pouvez avoir fait le meilleur business plan possible, avoir préparé votre start-up de la meilleure manière possible. Si vous l'avez lancé le 15 février cette année, ça s'est probablement pas passé comme prévu. Et vous n'aviez aucun moyen de le savoir. Vous ne pouviez pas le prévoir. Alors c'est un exemple extrême. Mais il y a des tas de choses imprévisibles que vous ne pouvez pas prévoir et qui veulent dire que nos décisions n'auront pas les résultats auxquels on s'attend. Donc le premier conseil qu'on peut donner au manager qui s'apprête à prendre une décision, c'est de rester à la fois humble et optimiste, si on peut dire. C'est-à-dire humble parce qu'il faut se rappeler que même si on fait tout le mieux possible, on gagnera pas à tous les coups. Et optimiste parce que ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, au contraire. Ça veut dire qu'il faut prendre des risques, qu'il faut essayer, qu'il faut s'assurer, comme vous disait sagement votre grand-père, de ne pas faire la même erreur deux fois, mais qu'il faut aussi être prêt à en faire, parce que celui qui ne fait pas d'erreur, c'est qu'il n'a jamais rien essayé.
Hyper intéressant. Merci pour cette réponse ultra précise. Je lisais effectivement certaines annotations sur triompher des erreurs de planification, réancrer votre prochaine réunion budgétaire, résister à la fièvre de la surenchère. Des thématiques que vous développez ressembleraient presque à une fiche de mission d'un acheteur en quête de succès, de nombreuses compétences transversales qui pourraient inspirer nos auditeurs. On sait que la pire façon de négocier, c'est de négocier avec soi-même, en se fixant un horizon souhaité et une cible acceptable. Pourriez-vous nous donner quelques clés pour réussir une bonne négociation ?
Alors, je suis pas un expert de la négociation en général, hein. C'est un domaine dans lequel il y a énormément de travaux très intéressants dont je suis pas forcément un connaisseur. Moi, il y en a un qui m'a frappé et dont je parle entre autres dans Vous allez commettre une terrible erreur. C'est l'utilisation du biais d'ancrage dans une négociation. On peut montrer que, contrairement à un cliché qu'on entend parfois, mais que les professionnels ont dépassé depuis longtemps, heureusement, le premier qui donne un prix dans une négociation n'a pas perdu, en fait, il a gagné. Le premier qui va établir le niveau de prix, ou en tout cas qui va poser le premier chiffre dans la négociation, que ça soit sur le prix ou sur autre chose d'ailleurs, le premier qui va donner un chiffre, va en fait marquer des points, parce que, plus ou moins consciemment, quand quelqu'un nous propose un chiffre, même si on sait qu'on est là pour en proposer un autre, pour négocier et pour arriver à quelque chose qui est entre les deux, on ne peut pas s'empêcher inconsciemment de chercher des raisons pour lesquelles ce chiffre pourrait être réaliste. Et donc, on va forcément, d'une certaine manière, accepter l'idée qui nous est soumise. C'est un peu le même phénomène, toute proportion gardée, que celui que vous avez quand vous êtes exposé à des fake news. Vous savez, quand vous êtes exposé à des fake news, même si vous savez que c'est fake, eh ben, ça vous influence quand même un petit peu. Et si c'est suffisamment répété, vous allez finir par vous demander si c'est pas un peu vrai quand même quelque part. C'est comme ça que les fake news finissent par semer le doute et par semer le trouble. Eh ben, être le premier qui donne un prix dans une négociation, c'est la même chose. Vous allez ancrer la négociation sur le prix que vous donnez. Si vous fixez un prix très bas parce que vous êtes l'acheteur, ben, ça va tirer le prix vers le bas. Si vous fixez un prix très haut parce que vous êtes le vendeur, ça va le tirer vers le haut. Et donc, vous avez intérêt à être le premier qui donne un prix. C'est d'ailleurs ce que font les banques d'affaires quand elles négocient des deals. Hein. Elles fixent d'emblée un prix très élevé et ensuite, les gens reviennent en disant « Mais non, votre prix est ridicule, je vais vous offrir beaucoup moins. » Mais enfin, on est quand même parti d'un ancrage très élevé. C'est d'autant plus vrai que le prix objectif dont on devrait parler, qui n'existe pas de prix objectif dont on devrait parler, et que donc c'est uniquement par l'évaluation des deux parties que le prix va se déterminer.
Merci. Et puis j'aurais une dernière question, notamment sur le management générationnel, collaboratif, mais le générationnel en particulier, puisqu'on parle d'un ouvrage sur le management. Mm-hmm. On sait qu'on a différentes typologies de générations dans une entreprise. Mm-hmm. De quelle façon, quels seraient les conseils que vous pourriez donner sur la façon d'un manager, dont un manager pourrait concilier différentes aspirations, différentes motivations?
C'est un sujet intéressant. Je vous avoue que je n'ai jamais vu de travaux scientifiques sérieux qui confirment qu'il existe effectivement des générations.
D'accord.
Évidemment qu'il y a des générations, hein, entendons-nous bien. Mais l'idée que les nouvelles générations auraient des aspirations radicalement différentes des générations précédentes, je crois, est une simplification. Elle n'est pas forcément fausse, mais c'est une simplification. On nous dit, par exemple, les nouvelles générations ont des aspirations complètement différentes. Elles veulent faire des métiers qui ont du sens. Elles veulent travailler dans des entreprises qui sont beaucoup plus conscientes de leur rôle social et de leur rôle environnemental et de leur rôle sociétal. Et bien sûr, ça a un fond de vérité. Mais c'est pas vrai de tout le monde tout le temps. Quand je vois mes étudiants, il y en a énormément pour qui, oui, si on leur demande si c'est important, ils vont dire oui. Mais en fait, quand vous leur demandez où ils ont envie d'aller travailler, ils ont envie d'aller travailler dans les mêmes entreprises dans lesquelles les étudiants d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans et d'il y a 30 ans avaient envie d'aller travailler. C'est-à-dire celles où on leur propose des beaux jobs et qui payent bien. Donc, je crois qu'il faut se garder de ce genre de généralité et que le vrai sujet du management, entre guillemets, générationnel, c'est le sujet du management tout court. C'est que quand on veut être un bon manager, il faut adapter son management aux gens avec qui on travaille, pas à leur génération, de même que c'est pas à leur couleur de peau ou à leur genre qu'on va adapter son management, c'est à la personne, à l'individu à qui on a affaire, dont on va essayer de comprendre les aspirations, les motivations, les angoisses, les espérances, et on va essayer de s'adapter à ça pour leur faire donner le meilleur d'eux-mêmes. Et à ça, pour chaque individu, pas parce qu'il appartient à une génération plutôt qu'à une autre.
Pascal Leroy a aussi quelques questions pour vous, Olivier.
Merci.
Bonsoir Pascal.
Bonsoir Olivier. Alors vous abordez dans votre ouvrage et tout à l'heure dans ce que vous disiez le management comme une science. Alors toute science procède d'une méthode. Est-ce que vous pouvez nous dire si la méthode reconnue de McKinsey d'analyse des problèmes vous a influencé dans votre approche et dans l'écriture de votre livre?
Oui, mais pas comme méthode scientifique, parce que c'en est pas une. La méthode de McKinsey pour approcher les problèmes est une méthode de résolution de problèmes. C'est pas une méthode d'acquisition de connaissances. Okay. En tant que méthode de résolution de problèmes, sujet sur lequel j'ai d'ailleurs écrit un autre livre, si ça vous intéresse, qui s'appelle Trouvez-moi la solution, et qui paraît en janvier chez Flammarion également, en collection Champ. Cette méthode de résolution de problèmes, c'est une méthode pragmatique, qui a bien sûr des fondements scientifiques et logiques, mais c'est avant tout une méthode pragmatique pour trouver une solution acceptable à un problème de management, en commençant par bien le poser, par le structurer, par le décomposer, etc. Ça n'est pas une méthode qui permet d'accéder à une connaissance scientifique, c'est-à-dire à une connaissance généralisable. McKinsey traite le problème d'un client, ou un consultant en général traite le problème d'un client, en se disant quel est ce problème, comment est-ce qu'on identifie la spécificité de ce problème, alors que la démarche du chercheur, c'est au contraire de se dire où est la généralité d'un problème, où est la généralité d'une situation dont je peux tirer des leçons générales, et donc on va travailler non pas sur un cas, en général il y a des exceptions, mais non pas sur un cas, mais plutôt sur des grands échantillons sur lesquels on va essayer de tirer des leçons générales statistiques, si vous voyez ce que je veux dire.
Très bien.
Donc la question de la méthode est très intéressante, et pour quelqu'un qui, comme moi, vient d'une démarche pratique et pragmatique, adopter une démarche scientifique ne va pas de soi, et inversement, pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans cette démarche pragmatique, savoir comment tirer les leçons comment utiliser de manière pratique ce que font les scientifiques n'est pas complètement immédiat. C'est pour ça qu'il y a un tel fossé entre la théorie et la pratique.
Merci, c'est très clair. Alors, dans vos différentes interventions, vous évoquez la fragmentation du type de management. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène-là? Et alors évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas une réponse avec un bon type de management. Et vous avez partiellement répondu tout à l'heure en disant qu'effectivement, il fallait adapter son style de management à la population concernée. Mais est-ce que vous auriez peut-être un type de management ou deux types de management vers lesquels vous conseilleriez d'aller pour un manager aujourd'hui? Il y a deux questions dans mes questions. Hein.
Oui, il y a plusieurs questions dans mes questions. Sur la fragmentation... Alors, ça peut avoir plusieurs sens. Un des conseils qu'on peut donner, pour le coup, avec des tas de faits scientifiques pour l'appuyer, un des conseils qu'on peut donner aux managers pour être de meilleurs managers, c'est justement de lutter contre la fragmentation de leur temps. Et en particulier, de lutter contre toutes les sollicitations numériques qui perturbent et qui fragmentent leur attention. Il y a une véritable guerre économique pour notre attention qui se livre entre les différents opérateurs du digital. On est bombardé des centaines, voire des milliers de fois par jour de sollicitations par nos téléphones, nos ordinateurs et je parle même pas des médias. Être capable de se déconnecter, être capable de se mettre en mode avion, comme si on était encore dans l'avion, ce que par les temps qui courent, on n'est pas beaucoup, mais être capable de se mettre en mode avion quand on n'est pas dans l'avion devient un vrai atout pour les managers. Donc s'il y a une chose pratico-pratique que tout le monde peut faire demain matin pour améliorer sa productivité du jour au lendemain, alors vraiment j'essaye d'éviter de donner des conseils aussi, de faire des promesses aussi racoleuses, mais pour le coup, si vous n'avez pas déjà désactivé les notifications de votre téléphone, faites-le, vous allez voir que vous allez gagner énormément en productivité.
Vous nous aviez confié, Olivier, en tout début de préparation de cette émission, que si on vous avait demandé il y a 5-6 ans, voulez-vous devenir prof, vous auriez répondu non. La vie est incroyable, non ?
La vie est très étonnante. J'aurais pas du tout pensé que j'allais devenir prof. Je pensais, en fait, comme vous, Patrice, que c'était pas un vrai métier. Et donc, je suis parti de McKinsey au départ quand je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose, en me disant que j'allais être un peu prof et un peu consultant indépendant, comme vous le suggériez, et peut-être aussi un peu administrateur et peut-être aussi un peu autre chose. Et en fait, je me suis aperçu à l'usage que c'est un vrai métier qui gagne à être fait à 100% de son temps. Et même si ça paraîtra incroyable, je travaille probablement plus d'heures par semaine, enfin certainement plus d'heures par semaine aujourd'hui que quand j'étais consultant chez McKinsey.
En tout cas, en attendant votre prochain ouvrage qui paraît au mois de janvier, on a de quoi se régaler et beaucoup apprendre avec « Vous allez redécouvrir le management ». Olivier Ciboni, merci beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.
Et à très bientôt. Merci également Ludovic.
À bientôt.
Merci Pascal. Fin de ce numéro de cporadio.tv. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de cporadio.tv, une production b2b-radio.tv en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.